Bien, alors je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC. Mon nom est Jeanne Beauvais, je suis professeure au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Et la rencontre d'aujourd'hui s'intitule « Entre le texte et la scène, dialogue ». Dialogue entre deux figures marquantes du théâtre québécois, dont l'œuvre dépasse évidemment largement les frontières du Québec. Le dramaturge Normand Chorette, à ma gauche, comme dans un match de boxe, même si ça n'en est évidemment pas un. Le dramaturge, donc, Normand Chorette, et le metteur en scène, Denis Marlot. Qui sont en fait d'exacts contemporains, puisqu'ils sont nés tous les deux, si je ne m'abuse, en 1954. Alors, déjà un lien au tout début de leur parcours respectif. Alors, ce sont des parcours très impressionnants pour l'un et pour l'autre. Normand Chorette est évidemment, comme je l'ai dit, dramaturge. Il a rédigé une bonne douzaine de pièces de théâtre, mais il est aussi l'auteur de textes radiophoniques, de récits, de scénarios, et il a aussi beaucoup traduit, notamment il a traduit Shakespeare. Sa première pièce, Rêve d'une nuit d'hôpital, s'est mérité le premier prix du 4e concours d'œuvres dramatiques de Radio-Canada ainsi que le prix Paul Gilson, j'espère que je prononce bien, et ça c'était il y a déjà presque 30 ans. Et depuis, évidemment, il a écrit et a vu représenter de nombreuses pièces dont je ne cite pas que quelques titres, Provincetown Playhouse, juillet 1919, j'avais 19 ans, écrit en 1978 et publié en 1981, La Société de Métis, fragment d'une lettre d'adieu lue par des géologues, Les Reines, Le Passage de l'Indiana, Les Stabat Mater 1 et 2, Le Petit Quechelle, et tout récemment, en 2007, Ce qui meurt en dernier. Et dans son œuvre narrative, notamment le roman Scène d'enfant, qu'on peut signaler en 1988, ainsi que Le Pont du Gard, un court récit suivi de Le Poids des choses, publié en 1998. Il a, comme j'ai dit, beaucoup traduit. Il a traduit Shakespeare, bien sûr, mais il a aussi traduit Hedda Gabler de Ibsen et Marie Stuart de Schiller. Et donc, cette production est extrêmement impressionnante. Ce sur quoi on va se pencher aujourd'hui, en fait, c'est essentiellement sur sa collaboration avec Denis Marlot. Donc, Denis Marlot, qui est à ma droite, et dont je vais là encore résumer très, très brièvement le parcours. Denis Marlot, qui est cofondateur en 1982 de la compagnie de création Ubu, compagnie qu'il dirige actuellement avec Stéphanie Jasmin, avec laquelle il a tout d'abord proposé un certain nombre d'événements théâtraux et notamment de collages autour de textes dadaïstes dans les années 80. Il a aussi monté beaucoup Beckett, Cantate grise notamment, La dernière bande, Pas moi. Il a monté aussi des auteurs comme Thomas Bernhardt avec Maîtres anciens. Il a beaucoup monté Maeterlinck, qu'on connaît sa mise en scène d'intérieur et aussi sa fantasmagorie technologique des aveugles en 2002. Il vient tout juste de présenter en Europe une pièce de José Plia, Le complexe de Thénardier, qui va venir ici à Montréal, à l'Espace Go, en janvier-février 2009. Alors, évidemment, ce n'est absolument pas exhaustif que cette présentation de nos deux invités. Leurs parcours individuels sont tout à fait remarquables et pourraient faire l'objet d'une causerie en eux-mêmes. Mais aujourd'hui, puisqu'on a la chance de les avoir tous les deux, c'est autour de leur collaboration artistique que va tourner cette rencontre. Une collaboration qui s'est étagée sur une bonne douzaine d'années, avec en 1996 la création du Passage de l'Indiana, en 2000 la création du Petit Quechelle, en 2008, donc tout récemment, Ce qui meurt en dernier, Ainsi qu'en 2005, la reprise des Reines, qui avait été créée en 1991 dans une mise en scène d'André Brassard et que Denis Marlowe a mis donc en scène en 2005. À quoi on peut aussi ajouter en 2007 la mise en scène par Denis Marlowe de l'Othello de Shakespeare dans une traduction de Normand Chorette. Alors bien sûr, ce phénomène de collaboration entre auteur dramatique et metteur en scène n'est pas rare. Il n'est qu'à penser à celle légendaire, bien sûr, de Michel Tremblay et d'André Brassard. Mais ce type de collaboration n'en demeure pas moins fascinant, en ce sens qu'il révèle le processus de co-création qui est au cœur de la dynamique théâtrale, surtout quand ce processus est mis au service d'une exigence artistique telle que celle qui anime nos deux invités. Et donc, c'est de ce processus que nous allons nous préoccuper aujourd'hui. La rencontre d'aujourd'hui nous permettra peut-être d'en explorer un peu les arcanes qui, évidemment, arcanes oblige, demeurent généralement totalement inaccessibles aux profanes que nous sommes. Alors, le plan de cette rencontre va se présenter comme suit. Je vais demander à Denis Marlowe et à Normand Chorette de nous faire un peu l'historique de leur collaboration, des modalités de cette collaboration qui s'étage donc sur cette douzaine d'années très très fertiles. Je leur demanderai aussi éventuellement de présenter, puisqu'ils ont des points communs et des points de convergence, bien sûr, qui président à leur rencontre artistique, présenter un peu quelle vision du théâtre se dégage de cette collaboration entre auteur et metteur en scène et comment ils envisagent l'interaction entre le texte et la scène. Cette causerie sera suivie d'une période de questions du public, donc je vous demanderai de ne pas vous gêner, mais de vous présenter au micro pour poser vos questions, soit à Denis Marlowe, soit à Denis Chorette, à Danette. Normand Chorette, ouais, les lapsus commencent et ils risquent de se poursuivre. Donc soit à Denis Marlowe, soit à Normand Chorette ou aux deux, donc vous présentez au micro. Mais avant cela, avant toute chose, conformément à la tradition des lundis du CRILC, la rencontre va débuter par la lecture d'un texte. Un texte que je dirais inédit de Normand Chorette, mais en fait il n'est pas inédit, puisqu'il a été publié en 1999 au bien nommé Édition du silence, mais il n'a, et on me corrigera si je me trompe, il n'a jamais été présenté sur scène, quoiqu'il ait déjà été lu en public à Québec, mais la primeur aujourd'hui vient du fait d'abord qu'il va être lu à Montréal, et ensuite il va être lu par Denis Marlowe lui-même. Ce texte est une conférence dont Denis Marlowe nous présentera peut-être les antécédents. La conférence s'intitule « Les états financiers », et donc c'est un texte, un monologue de Normand Chorette.
Il s'agit d'une lecture de metteur en scène et non pas de d'acteur, je tiens à le préciser. Vous entendez ma voix un peu atteinte, un peu bronchitique, alors donc vous m'excuserez d'avance de les quelques hésitations ou changements de rythme qu'impose cette lecture. Il s'agit d'un texte que Normand avait écrit pour une actrice en particulier qui a refusé de le faire. C'est vous dire. En fait, le problème de mémoire qu'entraînait ce texte est évident. Il s'agit d'un exercice de virtuosité. Alors, je ne me lancerai pas dans la virtuosité, mais vous faire appréhender, disons, le contenu formel de cette expérience d'écriture à travers cette conférence. Je ne suis pas sûr de me rendre jusqu'au bout également. Alors, donc, on verra ce que je peux faire. Personne ici n'ignore que le souci de notre centre de recherche de faire de son réseau ultramoderne une infrastructure essentielle dans le contexte des échanges occidentaux, tant par l'extension de la portée de son service que par la qualité de transmission de ses données dans les pays en voie de développement, a suscité au cours de la dernière décennie une vague considérable d'initiatives que nous tiendrons plus ou moins responsables des décisions rendues d'un consortium d'organismes de réglementation selon lesquels notre plan quinquennal se doit de prévoir d'ici le prochain millénaire un rééquilibrage des objectifs et un déploiement d'efforts comparables à ceux que nous avons dû fournir à la fin des années 80 lors de l'implantation d'un réseau de transmission en temps réel d'images médicales de haute définition pour fin de diagnostic à distance, effort éminemment souhaitable compte tenu de l'intensification prévue de la concurrence et de la mise sur pied d'une gamme de services évolués, un client incluant la vidéo sur demande, le télétravail, la culture à la carte, l'éducation vidéophonique et notre adhésion à une plateforme commune qui assurera d'un bout à l'autre de notre planète la commercialisation optimale des services du futur. Il est vrai qu'aucune décision n'a encore été prise. Si nous constatons que les deux dernières années de service de notre centre de recherche offrent un bilan irréprochable, notre portefeuille de placement au 31 décembre dernier accusait dans la colonne de ses valeurs nominales un rendement toutefois légèrement inférieur aux états financiers précédents, à cause notamment de la surpondération des marchés secondaires dépendant davantage des investisseurs étrangers, situation particulièrement vraie pour les pays du Moyen-Orient, qui ont subi le contrôle d'une économie locale suite au tremblement de terre qui a éprouvé le nord-ouest de cette région aux ressources déjà affectées par la guerre, et dont les répercussions auront fait augmenter le prix des importations et de la main-d'œuvre dans le domaine de la technologie, de l'informatique, de la cybernétique, tout comme dans l'univers de la fabrication des prothèses. Je m'empresse de vous dire que je ne suis pas venu ici pour vous persécuter. Quoi que vous pensiez, ma tâche au Conseil est de protéger les intérêts de chacun, mais je dois admettre que le déficit accumulé est une réalité dont je ne puis faire abstraction. Avant de nous engager dans l'analyse proprement dite de nos états financiers, nous avons préparé un guide à l'attention de ceux qui, parmi vous, avaient émis l'an dernier des réserves quant au risque d'approximation que représentaient les éléments comparables des tableaux récapitulatifs et auxquels nous avons jugé bon de remédier en vous soumettant une conversion des devises et un aperçu des statuts et changements des dénominations pour chacune des conventions comptables que vous retrouverez en annexe des documents qui vous ont été remis lors de l'inscription. Je m'excuse à l'avance de l'aspect rébarbatif et des explications qui vont suivre, mais il est essentiel, pour ceux que le mécanisme du cycle de croissance modérée intéresse, de rappeler qu'une nouvelle réglementation nous permettra dorénavant de restructurer notre fonctionnement selon un modèle de société de portefeuille et de séparer les activités autorisées des activités non autorisées de notre exploitation, puisque la réorganisation impliquera le transfert à la société de portefeuille des investissements relatifs à l'industrie des prothèses, incorporés dans une filiale où les détenteurs d'actions ordinaires deviendront alors actions de la société de portefeuille sur la base d'une action ordinaire dans l'industrie des prothèses pour une action ordinaire de la société de portefeuille, tandis que les détenteurs d'actions privilégiées conserveront leur statut d'actionnaire s'ils sont majoritaires sur la base d'une action privilégiée dans l'industrie des prothèses pour deux actions ordinaires dans la société des portefeuilles, à moins qu'une action privilégiée négociée avant minuit le 31 mars portant la mention « négociée avant minuit le 31 mars » par un détenteur privilégié n'ait été inscrite dans le projet de restauration soumis à l'approbation des actionnaires majoritaires dans le cadre de transactions non rachetables à l'exclusion des frais relatifs à la réorganisation, puisqu'ils auront été imputés directement aux bénéfices non répartis, calculés selon la méthode de la moyenne trimestrielle pondérée des actions ordinaires négociées avant minuit le 31 mars en vue d'une circulation donnant droit aux dividendes trimestriels déclarés, mais non aux avantages combinés de l'effet de la révision des processus de rabais, ce qui empêcherait autrement notre centre de recherche de maintenir une saine organisation des ratios de couverture sur les titres d'emprunt, surtout quand on sait que d'autres sociétés ont annoncé leur intention de suivre l'exemple de l'industrie des prothèses afin d'accroître leur visibilité sur les marchés en modernisant leur réseau, soit par l'achat de messageries vocales universelles ou par l'acquisition de services interactifs sur l'appareil à écran ou sur plateforme AD8W3, comme c'est le cas pour la multinationale Concentric, dont la cote de crédit passait récemment de A+ fort à A+ faible, qui se spécialise dans les fonds autogérés à haut débit numérique, ainsi que les associations de services à but lucratif, dont les industries l'industrie des vidéos de Nanette, l'association universelle Soccer Kit Fétichisme pour les fabricants de cuir et de latex, la symétrique digitale Sexe Opposé, rencontre de l'industrie vidéo, nouveautés sont les exemples les plus susceptibles de favoriser par la constante de leurs investissements la notoriété d'un service alliant fiabilité et efficacité d'un modèle d'entreprise en fonction des besoins précis d'un partenariat dont le discours transparent sur les programmes définit l'ensemble des mesures et des réalisations pour une offre globale de solutions intégrées de communication et de technologie qui unissent leurs objectifs dans le seul but de faciliter la vie des investisseurs. Point. L'indice des taux d'imposition statutaire afférents aux services personnalisés est soustrait des résultats au cours de la période pendant laquelle les lampadaires ont été rendus. L'écart entre la charge de retraite et les cotisations versées que nous retrouverons en page 9 du bilan sous le titre de « frais reportés » doit être interprété comme un retranchement provisoire aux immobilisations puisqu'aucune perte sur l'enlèvement n'est reconnue à l'étable des activistes monopolistiques non plus que des concomitances ne pourront majorer les améthystes en cas d'agraphie visant au rééquilibrage des pancasses, des athétoses et des crédits à moins qu'une rémission des robes ne s'additionne à la déréglementation d'une instance portant sur la convergence des quotients. Dans un avis public émis en octobre, j'ai personnellement insisté sur l'importance des transpilutions antérieurement préconisées selon la gamme appliquée des STEP aux glatires imputables à l'ajout d'affectifs amortissables tels qu'ils se clamènent dans le martipode initial au risque d'épandir un crédant lié à un givreau paradoxal, lequel ne pourrait néanmoins s'agrammer dans un pédicostyle diagonal à seul bain de promouvoir l'optimanation du conglaire de la tarifie d'omission à l'hypolistisme moyennant le pouls de 25 cents par usas, un recel du dernier monomérue composté tout en afférant la postiglité, le lustère au massage, un massage s'il n'y a pas de semonce ou si la lune est décuplée. À manger que la libation des nouveaux appareils est désormais garantie dans les 24 heures suivant la rotonde. Ce séquestre offre en Ursule de nouveaux services à valeur transversale, couteaux, fourquettes, accessoires pour suspendre le chien, produits de javelage et couvercles de saison, au détriment de nos anciens prodiges qui, pour fiables et cardio-ménagers qu'ils s'éventaient, ne furgeaient pas les normes de parquetage imputées par l'argonciation carionale des prolistes minestiques. En gradisquant le déglamisque, l'istarnet du Cygienne se débazouge et par séducaste s'évarne au point de l'usperté jusqu'à ce que la glade despente se muperve en doturite et t'évergne l'apirmance des crimpages. Tout cela péarne la peau des pères agglotibés vers un dernier lucain, comme des térémites d'un prénaste négative qui bégit, rebégit sans alluverse de piélance. Il en rémunérait une porosité dans la plupart des cahiers et nombre de poids avons-nous paix constatue qu'un abandon d'humeur en ce qui me contourne noircissait lourdement l'enveloppe, en sorte que, du matin jusqu'au soir, me morfondant dans l'interminable corridor qu'aucun rayon n'allume, j'allais 10 fois au cours de la même heure vérifier l'état de mes robinets, de mon thermostat, de mes verrous, de mes stores et de mes draps, relisant les pages de mon journal intime dont je maudissais l'encre, laissant mes fétiches se morfondre et s'inquiéter de mon peu d'appétit, me traînassant de vivoire au portique et pleurant des larmes grises sur le parquet de ciment. Je ne me souciais pas des passants que j'indisposais en les regardant déambuler de ma lucarne par ces longues journées de temps violacé, ponctuées d'averses, de grêles, d'orages et de vent. Il n'existait d'élan dans la demeure qu'au moment de remplir son bol à la chatte, autrement je me figeais, silhouette assise, le menton enfoncé dans ma paume, en me déclarant sujette au désespoir et en fixant le contour de l'éton emprisonnant la surface de ce lit qui me réclamait au nom d'un très lointain écho, timbre, vitrifié, voix meurtrière, vésanie, mosaïque d'images, éveillant tes cils attroupés aux extrémités de tes paupières et prenant la place de l'indicible qui devait rester jardin de nos vies, malgré que rien dans l'hiver ne devait fleurir et que rien spécifiquement n'a fleuri. J'entreprenais vers midi d'épousseter mes abat-jours en écoutant mon cœur s'ouvre à ta voix, mais ce sursaut des mois dans le marasme ne faisait qu'amplifier le désarroi jusqu'au soir et jusqu'au commencement de la nuit, où je percevais aussi distinctement que si tu les avais rendues intactes à mes oreilles, les paroles que nous nous étions dites le premier jour. Qu'était-ce, Nectar inoculé quand pourtant je n'avais rien ingurgité. Diminution de mes facultés, diminution de la vie. Fleur à son apothéose tout juste avant de se faner. Mensonge crucial ou vérité minuscule au centre d'une illusion qui dure depuis que je suis né. Quelle est votre histoire? Une page blanche. Vous me la récitez, absinthe et génépie de mélancolie. Il est vrai que nous, les hommes, nous sommes de beaux parleurs, et nos serments sont plus abondants que nos sentiments. On entend toutes sortes de choses. Ne vous arrive-t-il pas d'écrire? Nous écrivons d'une main martiale. Nous trouons le papier à des centaines d'endroits. La médiation vous fait défaut. Oui, à nous, les hommes puissants et charnels, la médiation cruellement fait défaut. Le lac était désert et le ciel insondable. J'avais chaussé les souliers que tu préfères. Incliné, tes lèvres à mes pieds, tu disais « me voir naître ». Je caressais ta chemise et ton dos. La couleur argentée de ta cravate encerclait le cuir de mes trépointes et nous liait l'un à l'autre par d'inexorables filandres. Un peu plus tard, tu m'avais demandé « êtes-vous, comme moi, un être qui payait beaucoup d'impôts ?» Je t'avais répondu que j'en payais à la tonne, malgré le nombre impressionnant de communications interurbaines que je pouvais déduire du capital moyen, investi dans la colonne des pertes encourues afin de jouir des bienfaits de la mise en commun d'actifs, tout en profitant des avantages de la diversification. Là-dessus, je me souviens, j'avais remis ma chevelure entre tes mains avant de m'assoupir. Le lac était désert, sous un ciel stable qui contenait l'obscurité des choses que nous aurions voulu comprendre, mais qui ne nous était pas dévoilé. Au chapitre du rendement du capital moyen investi, vous trouverez les outils paritaires afin de comparer les taux. Nombre de mégahertz nous ont été facturés en avril, mais les pertes encourues figureront au chapitre des équilibres dans nos états financiers de clôture une fois que l'entorse aura été épluchée devant les tribunaux. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président-Directeur Général du Trésor, Monsieur le Directeur Adjoint, nous entendrons faire valoir nos positions relativement à l'affaire des semelles, en tout équipé, en vous accréditant de votre patio et en vous ramifiant de vos aiguilles, de votre aiguillante attraction.
Voilà. Hey, merci.
Ouais, bravo Denis Marlowe. Alors pour cet exploit, on comprend la comédienne et
on
est d'autant plus admiratif de votre performance. Alors voilà qui bouleverse complètement le plan que j'avais mis en place. C'est-à-dire que je pense que c'est ce texte que évidemment je connaissais pas et me paraît très emblématique à la fois d'une certaine poétique de la rupture et de l'inconfort qui caractérise l'œuvre de Normand Chorette et aussi évidemment du plaisir du texte et de sa mise en bouche qui est typique de certaines des propositions scéniques de Denis Marlowe. Je voulais vous interroger sur l'historique, les modalités de votre collaboration, mais si j'ai bien compris, ce texte a été rédigé dans le cadre d'un atelier lorsque vous étiez en résidence d'auteur chez Ubu en 2000, c'est ça?
Après le passage de l'Indiana, Denis et moi, on voulait continuer notre collaboration. Et je me rappelle très bien que la première... J'avais vraiment, après avoir écrit Fragments d'une lettre d'adieu lue par des géologues, j'avais envie de retourner au discours scientifique et ou à la langue de bois, c'est-à-dire une langue qui, par elle-même, ne dit rien. Et le danger de ça, c'est de tomber dans une espèce d'humour dont les humoristes font les frais quand ils se mettent à imiter cette langue de bois, la langue gouvernementale et tout ça. Alors, je me suis lancé dans une série de textes comme ça, et je me souviens que le projet central, ça devait être autour des mathématiciennes. Et on avait réuni une demi-douzaine d'actrices, et la contrainte, c'était de travailler avec des actrices qui étaient à l'aube de la cinquantaine, et elles devaient être des mathématiciennes. Sauf que je m'étais rendu compte qu'on n'est pas mathématicien passé 22 ans. C'est la date limite. Après ça, on est passé du... Les mathématiciens, c'est la fin de l'adolescence et le début du jeune adulte. Alors, ça marchait pas très bien. Et de faire des mathématiciennes retardées et tout ça, ben ça me remettait aussi dans une sorte d'inconfort psychologique. Alors, Denis m'a lancé comme ça pas le défi, mais la suggestion, il dit, écris des conférences, t'es bon là-dedans, des monologues. Et vous savez que j'ai jamais réussi un monologue en tant que tel, c'est-à-dire une pièce où il n'y a qu'une seule personne qui prenne la voix. Alors que beaucoup de gens pensent que je suis un spécialiste des monologues et que je les ponds comme ça. Pour moi, c'est très difficile de tenir longtemps la parole, surtout au théâtre, parce que pour moi, le théâtre, c'est vraiment l'art de la confrontation. Et lorsque deux personnages, un dit le contraire de l'autre, pour moi, il y a une pièce. Si un personnage est tout seul à se parler à lui-même, pour moi, ça fait pas une pièce, ça fait un discours poétique. Alors, la solution, c'était d'écrire des petits textes courts pour, justement... Et j'avais pensé, comme en musique, il y a des compositeurs qui ont écrit surtout au 19e et au 20e siècle, ils ont écrit des études, c'est-à-dire des pièces qui sont d'abord conçues pour les étudiants, pour approfondir un aspect technique. Alors, celui-là, c'est pour la mémoire. J'ai beaucoup pensé aux études de Debussy, pour les quarts, pour les tierces, pour les agréments, pour les septièmes, pour les chromatiques. Je me disais, bon, il y en a écrit plusieurs comme ça, et quand on les écoute et qu'on ne sait pas que c'est une étude, ça peut être très poétique, ça peut être très, très beau comme musique. Et c'est un petit peu ça que je m'étais hasardé à faire avec une série de conférences. Et dont la seule qui a été vraiment retenue, qui était la plus terrible, c'était une conférence, celle-là, c'était sur des états financiers, c'est très, très inoffensif. Il y en avait une que c'était sur le néo-nazisme. Et les gens sortaient vraiment parce que le point de vue était celui d'une femme néo-nazie qui venait plaider sa cause. Et elle était tellement touchante qu'on se disait, mais il faut être absolument d'extrême droite pour pouvoir comprendre cette femme-là. Alors ça, c'était... Et mais la plus terrible de toutes, c'était une conférence sur la recette de comment apprêter de la chair humaine. Et ça a donné le petit cachet. Ça a donné la pièce Le Petit Cachet, c'est celle-là qu'on... Parce qu'il y avait tellement là une matière terrible que je me suis dit, ben là, peut-être ça vaut la peine de faire une pièce avec ça. Et ça a donc été le long passage entre Le Passage d'Indiana et Le Petit Cachet qui est venu 4 ans plus tard.
Oui, alors ben, merci de faire le lien. Je me demandais comment Le Petit Cachet avait émergé de cette conférence-là, mais c'est visiblement, effectivement, comme vous venez de le dire, d'une autre. Précisément, si on peut alors remonter à votre première collaboration et voir comment cette collaboration s'est déroulée dans le temps. Vous l'avez évoqué, Le Passage de l'Indiana, qui a été créé en 1996 au Festival d'Avignon. C'était votre première rencontre et collaboration artistique. Comment est-ce que ça s'est mis en place? Vous vous connaissiez avant ou non? Alors, j'aimerais bien juste que si vous pouvez nous brosser l'historique de cette collaboration et de ce qui a suivi.
En 1995, je venais de monter au Festival de théâtre des Amériques Maîtres anciens de Thomas Bernhardt, qui donc avait été fort bien accueilli par la presse française qui était présente avec, je me souviens, il y avait le Libération et Le Monde, et ce qui avait amené aussi les gens du Festival d'Avignon à nous rendre visite pour voir le spectacle. Et suite à cette représentation, il y a eu donc une proposition qui m'a été faite de venir présenter Maîtres anciens, mais aussi avec une nouvelle création. Et c'est donc à ce moment-là qu'une de mes collaboratrices, Hélène Dumas, avec qui je m'entretenais aussi de mes désirs de rencontre, de mes envies, c'est elle donc qui m'a fait rencontrer pour la première fois Normand dans le cadre d'un rendez-vous très simple chez lui, où je lui ai fait part de mon désir et aussi de l'admiration que j'avais aussi pour son œuvre que je connaissais parce que j'avais eu la chance d'assister à quelques représentations. En l'occurrence, il y avait eu Fragment d'une lettre d'adieu que j'avais vu en lecture et puis qui m'avait beaucoup frappé et que j'aurais bien aimé à ce moment-là avoir monté et Donc c'est en parlant avec Normand que le projet d'une pièce, d'une nouvelle création s'est développé. Et on a eu tout juste une année pour donc développer très rapidement. C'est-à-dire, donc, lui, il avait bien des textes dans ses tiroirs, mais donc de développer une nouvelle création avec une distribution qui n'existait pas encore, mais avec des désirs aussi d'acteurs. Et nous sommes allés chercher une actrice, André Lachapelle, parce que je pense que pour toi c'était fondamental que le rôle de Martina North dans le passage de l'Indiana soit joué par elle, et ensuite Jean-Louis Millette, Marc Bélan et Julie McLemens sont venus se joindre à ce projet, et qu'on a donc répété sur une longue période de rencontres, ouais, de travail en atelier, parce que l'écriture se montait, c'est vraiment monté en même temps que les lectures, donc un rapport très, très direct avec l'auteur, ce qui était pour moi quelque chose de complètement nouveau, parce que c'était la première fois que je travaillais avec un auteur, ouais, que je m'amusais à dire à Normand, c'était mon premier auteur vivant. Alors, ouais. Donc, effectivement, il a mon âge, effectivement... nous avions aussi trouvé ensemble, je pense, beaucoup de parenté. Vous savez probablement, évidemment, ça saute aux yeux et aux oreilles que Normand est aussi musicien. C'est un très bon musicien. Il compose même, il compose la musique. Et j'étais, je pense, très d'abord marqué par... la musicalité du texte de chez Chourette, de son langage, comment ça fonctionne, tout en structure, en composition, avec des motifs, et j'ai été très séduit d'abord par cet aspect formel de son travail d'écriture, et par la suite j'ai découvert évidemment beaucoup plus de choses dans le travail en continuité.
Mais moi aussi, j'ai découvert beaucoup de choses avec Denis, parce que j'avais travaillé avec des metteurs en scène préalablement qui... d'abord, je viens des années 80, où on avait un éditeur qui nous publiait systématiquement tout ce qu'on faisait. Et les metteurs en scène se rendaient en librairie prendre des livres déjà publiés, et c'est comme ça que mes premiers textes ont été montés. Ce qui était assez inconfortable pour tout le monde, excepté pour moi, parce que mon texte étant écrit, j'avais qu'à répondre à des questions. Mais très souvent, en cours de répétition, le livre est imprimé et je me rendais compte qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Et j'avais travaillé avec André Brassard et ça a été ma première collaboration où on a abouti un texte ensemble avec une méthode qui m'était apparue un petit peu brutale. Et ceci dit, sans aucun bémol là, sur l'affection et l'admiration que j'ai pour André Brassard, mais il avait une façon... un petit peu intempestif d'interroger le texte et tout ça. Alors, je me disais, avec Denis Marlowe, ça va être de toute beauté, de tout repos, parce que on est de la même allégeance, on a quand même nos premières rencontres. Et non. Denis m'a amené à des précisions, mais j'avais l'impression qu'on mettait un texte pour Jean Doucet tellement qu'il était proche du sens, proche de la compréhension immédiate. Et c'est le grand apport de Denis mes textes sont différents depuis le passage d'Indiana parce que je me dis toujours, on n'a pas le droit de distraire le public par des coquetteries, par du style, par de la beauté, par des choses qui viennent intercepter l'attention par l'oreille. Et durant ce temps-là, il y a un acteur qui vit quelque chose, qui vit un drame. Et on ne sait plus où il est rendu dans son drame parce qu'il y a trop de... Et ça, c'est Denis vraiment qui m'a ramené tout le temps à cette écoute. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand il dirige, il va dire à l'acteur, mais c'est à moi aussi qu'il dit quand on est en processus d'écriture, il dit « j'entends pas ». Il dit pas « je comprends pas », il dit « j'entends plus ». Et ça, je sais qu'il y a une part du texte qui est très responsable de ce qu'il faut entendre. Ça a beaucoup changé parce que si je regarde le dernier travail qu'on a fait ensemble, il y a eu beaucoup moins de d'incommunication. Et pourtant, c'est un texte qui te résistait, qui t'a résisté longtemps. Mais je savais qu'il y avait des choses dans ce texte-là qui pouvaient être placées, alors que dans le passage Indiana, je ne savais pas où il voulait m'amener. J'avais l'impression, une fois, je lui ai dit, mais on monte ça chez Duceppe. J'ai dit, ça devient un drame policier au premier degré, alors que non, c'était pas ça. Et on a mystifié beaucoup les Français avec ça, parce que pour les Français, il y avait quelque chose de très américain dans cette pièce-là. Et pour les Québécois, mais non, c'était très français comme problématique. Ça se passait chez des éditeurs qui travaillaient sur le plan international et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup...
Avec les reines, comment vous y êtes pris, puisque les reines avaient déjà été montées par Brassard, comme vous l'avez dit, avaient été aussi remontées par Joanneau, je crois, en France. Et ensuite, vous l'avez repris, le texte était déjà là.
Oui.
Le type de travail est différent. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une reprise?
Mais là, c'est plus à Denis de répondre, parce que moi, je n'y étais pas du
Donc
tout.
Vous n'avez pas du tout participé
et par choix,
à ce processus-là?
Presque pas à la première lecture, comme toujours. Mais d'abord, c'est mon côté à la fois paresseux et aussi, je suis quelqu'un qui délègue énormément et qui fait confiance. Ça, je pense que beaucoup d'auteurs devraient apprendre ça très tôt. Que si on ne fait pas confiance à celui qui nous monte, on s'en va vers l'échec, parce que l'auteur n'a aucun contrôle. Il a déjà tout le contrôle de ce qui est marqué. Hein? Si, en plus, il faut qu'il vienne dire au metteur en scène comment le jouer et tout ça, ça ne peut pas aller. Et ça a été long avant que je trouve des metteurs en scène, parce qu'il y a eu Denis, bien sûr, mais il y a eu une période de ma vie aussi où les textes se sont éclairés, un a donné de l'éclairage à l'autre, et les choses étaient un petit peu plus limpides. Mais quand il s'agit d'une reprise, il y a la question de la confiance au metteur en scène, et il y a aussi la question que le texte, il est établi, il a été monté, il a été créé. Et puis je crois que même Denis avait vu ou connaissait la première création des reines.
Non, moi je ne connaissais pas, j'avais pas vu la mise en scène de Brassard. On en avait beaucoup parlé parce que c'était une mise en scène mythique, parce qu'on avait beaucoup parlé de ce texte à ce moment-là, avec des actrices formidables. Mais j'avais plutôt vu la représentation qu'on a donnée Joanneau à la Comédie Française. Au Vieux Colombier, qui m'avait exaspéré. Alors donc, pour vous dire la vérité, ça m'avait exaspéré parce que je trouvais qu'il était passé complètement à côté de quelque chose qui pour moi résonnait beaucoup dans ce texte, qui était fondamentalement l'humour. C'est-à-dire que je trouvais qu'il avait joué ça au premier degré parce que c'était des reines de Shakespeare. Il avait donné beaucoup d'emphase à travers la mise en place, à travers les entrées qui n'en finissaient pas des personnages. Ce qui fait que le spectacle durait, tout fait pratique, presque 2 heures et quart. Alors que nous l'avons fait en 1h15. Donc ça vous... Et j'ai rien coupé, mais rien coupé. Alors c'est pour dire qu'une mise en scène, ça peut avoir aussi une énorme influence sur la représentation, même en termes d'une durée. C'est-à-dire quand on parle de 1 heure retranchée, et que tout le texte est là, ça veut dire qu'il y a un rythme, il y a une façon d'entrer dans le rapport au texte, dans la mise en scène et dans le jeu qui est fort différente. Et qui est animé par un autre esprit. J'avais vu ça tout de suite comme quelque chose de très drôle, où je sentais l'humour de Normand à travers dans la répartie des personnages, dans le dessin des personnages. Et alors que ce que j'avais entendu et reçu était que de l'emphase, et que de la recherche de beauté sur le langage. Mmh. Et moi, ça m'avait un petit peu laissé perplexe. Et je pense qu'on peut rire beaucoup dans les pièces de Normand Chourette, même si elles sont grinçantes, si elles touchent des sujets parfois très très durs, très 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 étonnants. Bon, comme l'histoire du cannibalisme dans Le Petit Quechelle. Mais il y avait des moments drôles et qui laissent percevoir quelque chose de sardonique, de quelque chose de très... dans les reines en particulier, où je me suis senti tout à coup comme dans une sorte de bungalow avec de la banlieue de Laval. Et je disais ça beaucoup aux actrices. Je vois Christiane Pasquier qui est là derrière et que je salue, et qui jouait d'ailleurs Elisabeth. Et tout l'humour dans la rupture, parce que le langage, dans la pièce d'Irène en particulier, est fondé sur la rupture, sur le changement de rythme, le changement de direction. Et que si on ne fait pas l'effort, justement, de jouer en creux chacun des segments de la phrase, on passait du rire aux larmes, comme le faisait si bien Christiane avec ce pathétisme dans la scène de la disparition de l'enfant sous le balcon devant Anne, où elle pleurait et en même temps elle nous faisait rire. C'était ça qui, je trouve, manquait beaucoup donc à cette mise en scène que j'avais vue. Et puis pour moi ça relevait vraiment de la aussi d'une, je dirais, d'une approche très québécoise aussi, peut-être qu'on pouvait, de Shakespeare, de toi, ce que t'en as tiré, de ce que tu allé chercher. Et il fallait mettre ça en jeu, quoi. C'était pour moi quelque chose d'assez fondamental.
Donc finalement, même sans avoir travaillé ensemble, la pièce, vous y avez trouvé ce que Normand y avait mis ou...
Oui, mais j'avais même remarqué, pour moi, c'était un peu comme un retour sur les belles-sœurs.
Oui, déjà comparé.
C'est les belles-sœurs de Normand Chaurette, d'une certaine façon. Il y a une sorte de... Je me sentais dans un lien... Je trouvais que la pièce faisait une sorte de lien avec notre histoire de la littérature théâtrale, avec l'énergie, la touffeur de Marcel Dubé et celle de le surgissement de l'univers de Tremblay dans ça, quoi. Et je trouvais que tu venais apporter une sorte de synthèse qui trouvait son référent chez Shakespeare, mais qui jouait quelque chose de profondément québécois. Et dans l'humour, dans la façon justement de se mettre en dérision,
Je suis contente que vous ameniez cette idée de l'humour et du rire et de la dérision, parce que bon, c'est quelque chose qui, dans vos collages de textes de Jarry, notamment, évidemment, c'était là, mais c'est pas ce à quoi on associe, ou en tout cas le public et la critique associent spontanément votre travail. Alors, pour une raison étrange qui peut-être leur échappe, et parce qu'effectivement il y a ces décrochages, ces ruptures de ton,
dans les règles on a trouvé ça drôle,
oui.
On l'a bien souligné, justement. Mais bon, oui, il y a un effet d'étrangeté peut-être qui sous-tend le travail, et peut-être cette question d'étrangeté, de mettre à distance le texte pour le faire entendre dans sa structure, dans ses modulations. Et c'est moi ce qui m'intéresse toujours de façon très précise dans quelques ouvrages que je vais mettre en scène. C'est-à-dire que je ne travaille pas tellement sur la chair, mais je travaille sur l'os. Ce qui m'intéresse, c'est l'os. C'est Patrice Pavis qui racontait ça quand il avait vu Le Petit Quechel. Il a écrit un article qui m'a semblé très révélateur à ce niveau-là. Dans Théâtre Public, où après avoir vu le spectacle à Avignon, il a parlé de spectacle, la représentation qui travaille sur l'os et la représentation qui travaille sur la chair. Et quand il était sorti de cette représentation à Avignon, il avait parlé d'une représentation qui travaillait sur l'os, où il avait eu l'impression d'en avoir entendu tous les motifs, tous les mots, mais qu'il y avait une sorte de mise à distance, malgré tout. On n'entrait pas dans... alors que la représentation qui jouait sur la chair, comme il le disait, elle avance vers le public. Elle installe une sorte de... Elle semble vouloir installer une sorte de complicité ou de rapport, de rapprochement. Alors que là... c'est vrai que moi, quand j'avance sur un texte, ce qui m'intéresse, c'est de le désosser. C'est vraiment d'enlever tous les nerfs, d'enlever tout, pour voir qu'est-ce qui en reste. Et c'est peut-être pour ça que Robert Lévesque disait à un moment donné qu'à chaque fois que je passais sur un texte, c'était assez terrible pour l'auteur.
Vous êtes aussi cannibale que Le Petit Quechel, de ce point de vue-là?
Oui,
presque.
Peut-être bien.
Mais justement, cette idée d'étrangeté là, que vous évoquez au sujet de la langue, c'est peut-être quelque chose sur quoi on peut essayer de s'attarder un peu. On parlait de sentiment d'étrangeté face aussi bien à vos mises en scène qu'au texte de... de Normand Chorette. J'ose pas dire inquiétante étrangeté, parce que le terme, d'abord, est galvaudé, l'expression est galvaudée, mais ensuite parce que finalement, c'est pas si inquiétant que ça, je trouve, dans vos propositions à tous les deux, dans le sens que il n'y a pas d'irruption soudaine de la menace dans le familier, ce qui serait la définition de l'inquiétante étrangeté. On a l'impression que l'étrangeté est une donnée d'emblée chez vous, dans les textes comme dans les mises en scène, et que là, vous parliez de distance, je parlerais presque peut-être d'inconfort du lecteur-spectateur. On est d'emblée placé dans cette position, cette situation d'inconfort qui demeure à la fois par un peu par le rapport à la langue, mais aussi par toutes sortes de procédés. Bon, des brouillages spatio-temporels, c'est typiquement des procédés dramaturgiques. La question de la fragmentation, des effets d'onirisme qu'on retrouve aussi bien dans les textes que dans la mise en scène. La présence de la mort, plus ou moins diffuse. Le fait que ce que vous présentez, ce que vous donnez à voir ou à lire, ce sont pas tellement des psychologies que des psychés, que des consciences. Enfin, ce sont des constats que je suis pas la seule à faire. On a beaucoup parlé dans les lectures de Maeterlinck par Denis Marlowe, et notamment bon, des aveugles. On peut renvoyer à cette ambition, ce qui semble une ambition théâtrale, qui renvoie en fait à l'essence du théâtre. Selon Craig qui voulait matérialiser l'invisible dans le visible, je ne peux pas m'empêcher de noter en fait chez Normand Chorette aussi la récurrence de cette question de l'invisible à travers la figure de l'aveugle qui est fréquente en tout cas dans vos premiers textes. Je pense à la société de Métis, je pense aux fêtes d'automne où il y a l'évocation du père aveugle.
Oh mon Dieu.
Du père, c'est Dieu, mais c'est là quand même. Oui, et puis tout récemment dans ce récit, ce beau récit du Pont du Gard vu de nuit,
où
il est question de voir tant par les yeux de l'âme que par nos yeux réels. Et évidemment, le lien ou l'écho avec les aveugles de Maeterlinck revisités par Marlowe, je pense, sont. C'est intéressant à noter. Mais ce sentiment d'étrangeté qui est créé par plusieurs processus, je veux mieux dire ça que procédé, j'aimerais vous entendre sur ça de façon peut-être un peu plus élaborée. Et surtout, à quoi est-ce qu'il donne accès et en quoi est-ce qu'il est constitutif pour vous finalement du théâtre ou d'une vision du théâtre?
Ben, je pense que c'est d'abord une attitude dans le travail, en processus de création. C'est une attitude qui fait que face à la répétition, au travail de répétition, je cherche constamment à déjouer ce qui me semble d'abord prévisible dans l'approche même du jeu de l'acteur ou de l'actrice. Que dès que j'entrevois, que je suis en mesure d'anticiper une inflexion, une sorte de modulation, je suis souvent en train de la questionner, parce qu'elle me semble tout de suite répondre à une sorte peut-être de réflexe, d'automatisme, mais qui ne va pas suffisamment loin dans le sens d'une recherche qui cherche à faire entendre, parce que c'est vrai que Normand souligne que souvent je suis quelqu'un qui n'entend pas en répétition, et c'est souvent ce qui revient le plus dans mes directives aux acteurs pour me faire comprendre, pour faire comprendre que oui, je comprends, mais je n'entends pas. C'est-à-dire, c'est deux choses pour moi. Comprendre, oui, on peut faire une analyse théorique du texte, se l'expliquer, mais l'entendre pour que ça résonne, pour que ça vienne travailler sur les perceptions, sur le sensitif, sur un effet de globalité, c'est plus important pour moi que qu'on m'explique le texte. Et souvent, je trouve qu'au théâtre, on arrive trop souvent dans cette approche à faire on se limite à cette approche de l'explication du texte. J'ai souvent l'impression que des personnages m'expliquent des acteurs m'expliquent leur personnage au lieu de faire un voyage de faire un voyage avec eux, de me faire un voyage. Et ça, pour moi, c'est une zone, une problématique assez importante qui fait que, au fond, je pense que même Christiane pourrait en témoigner, elle dit souvent, avec toi, ce qui est simple, ce qui est vrai, c'est que tu pars toujours au degré zéro. C'est-à-dire qu'il y a... Je ne pars pas avec des... Comment dire, des idées préconçues de ce que ça va être. Je ne sais pas ce que ça va être. Ce que je recherche avant tout, c'est l'expérience. C'est l'expérience dans le cadre du processus. Et c'est cette expérience qui, dans la durée, qui va finir par installer un rythme, une couleur, un timbre, dans la durée de la représentation et qui va s'imposer et qui va trouver et je vais tout faire aussi par, peut-être comme vous le dites, mais de façon très, je ne fais pas des effets de brouillage pour faire des effets de brouillage, mais dès que je sais à peu près où je suis, ça commence à m'ennuyer, hein. Alors donc j'aime bien ne pas savoir où je suis parce que c'est l'endroit, le théâtre pour moi, où on peut être le mieux dans cette situation. Quand on est dans la maison, dans le réel, on a besoin de savoir où on est. Mais le théâtre est un endroit où on peut se perdre, justement. On peut se perdre juste dans des lieux, dans des paysages, dans des émotions, dans des sensations que le texte nous amène à découvrir. Hein, c'est un territoire à explorer. Et c'est dans ce sens-là que ça m'intéresse, le théâtre, que je fais avec les textes de Normand, et quels que soient les textes, de toute façon.
C'est le texte qui en est le véhicule au départ.
Oui, ouais. Oui, je pense que c'est fondamentalement le texte qui me dirige. J'ai pas d'idée de mise en scène, que jour je vais travailler les nouvelles technologies, ou je vais inscrire ça là-dedans. Il y a même toujours une sorte de processus. Souvent, j'imagine beaucoup de choses, et puis je finis par rien. C'est-à-dire que j'avais prévu souvent des choses qu'à la fin on ne retrouve plus. C'est souvent une sorte de décantation qui se fait en cours de processus de tous ces composants que je mets en place et que je n'utilise pas nécessairement. Mais j'aime bien savoir que je pourrais les utiliser. Mais ça fait partie des potentialités de l'œuvre.
Ça correspond aussi à votre expérience d'écriture ou est-ce que c'est quelque chose qui se met en place quand vous travaillez particulièrement avec Denis Marlowe? Est-ce que c'est...
Non, parce que d'un point de vue chronologique, l'auteur, même si on a fait le passage d'Indiana à cause qu'il y avait des contraintes temporelles, on avait un festival d'Avignon à faire un an plus tard et ça s'est très bien passé, mais ça s'est passé dans la magie de la première rencontre et tout ça. C'est un moment donné dans la vie, le passage d'Indiana. Mais quand j'écris un texte, si je me réfère au dernier, ce qui meurt en dernier, je l'écris d'abord tout seul. Évidemment, je compte sur Ubu, sur l'accueil d'Ubu pour faire des ateliers. C'est des petites structures. On travaille avec Christiane, en l'occurrence. L'an dernier, on a vraiment travaillé avec elle. Mais le texte était, dans son ensemble, était déjà là. Là où je suis pas à l'aise avec la question de l'étrange, c'est que moi, je ne conçoit pas mes choses comme étant étranges. De la même manière que Denis dit qu'il ne fait pas du brouillage pour en créer, on ne fait pas du flou artistique pour créer du flou, je ne pense pas qu'un peintre fasse de l'abstrait pour faire de l'abstrait. Il y a un mouvement spontané, et c'est pour ça que, passé la cinquantaine, on écrit moins, parce qu'on a tout donné ça. C'est plus difficile de retrouver cette spontanéité-là de l'enfant qui crée. C'est Picasso qui disait « Tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est que rendu adulte, il faut le rester. » Il y a une spontanéité qui sort et elle ne s'interroge pas, cette spontanéité-là. Il y a une vigilance qui s'exerce au moment d'écriture qui est la mienne. Qui n'est pas celle du voisin, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont m'échapper. Généralement, sur le plan pratique, il y a des choses qui m'échappent. On a toujours des très bons conseillers qui nous rappellent qu'elle a dit ça à telle page, elle ne peut pas dire ça à telle autre page. Bon, mais ça, c'est du petit détail de la cuisine, dans le fond. Mais en gros, pour moi, mes personnages ne sont pas étranges. Quand un personnage se lance dans le rêve et se lance dans le fantasme, Moi, je suis quelqu'un qui me lance dans le rêve et qui me lance dans le fantasme à tous les jours. C'est un peu ça, ma vie. Mais par contre, je suis prêt à admettre que sur l'échelle de la population, là où je me situe, oui, je me situe dans l'étrangeté par rapport à mon frère, ma soeur, à mes amis, à plein de gens. Et là, c'est des gens qui sont proches de moi, mais là, des inconnus. C'est vrai que je vois qu'il y a une différence. Mais cette différence-là, elle m'appartient, elle m'habite, de sorte que mes textes me ressemblent.
C'est pas tellement l'étrangeté du créateur qui, mais c'est l'effet d'étrangeté produit sur le public sur lequel vous n'avez d'une certaine façon pas de contrôle.
J'ai aucun contrôle là-dessus.
Et c'est aussi ça qui rend vos propositions dramaturgiques ou scéniques à ce point stimulantes et peut-être déconcertantes pour certains qui les qualifieraient d'hermétisme ou d'élitisme ou enfin de Dieu sait quoi. Mais vous avez aussi tous les deux, chacun à votre manière, bien que les limites du genre théâtral, le décloisonnement des arts, tout ça, c'est des choses qui sont dans l'air du temps, mais vous avez une manière aussi d'en repousser les limites qui peut-être précisément déconcerte un peu, soit par vous parliez de vous-même il y a une dizaine d'années de vos pièces comme étant des romans.
Oui.
Et Denis Marlowe, je pense aux explorations justement avec la technologie, les ressources technologiques. Donc, à certains égards, le théâtre est un véhicule, vous l'avez dit, un véhicule d'expérimentation. Et c'est à peu près inévitable que l'effet produit sur le public soit un effet d'étrangeté, ce sentiment d'étrangeté qui sourd des différentes propositions que vous faites. C'est pas un mal, au contraire.
Non, mais moi j'ai quelque chose à dire là-dessus sur le décloisonnement et sur la rupture et tout ça. Le théâtre, c'est quand même un genre littéraire et un genre visuel qui a des siècles d'assises extrêmement solide, et ça a été bâti sur des colonnes, et si on déplace ces colonnes-là, il faut savoir ce qu'on fait. Tout risque de s'écrouler. Il faut toujours revenir. Moi, je reviens toujours à Shakespeare. Je reviens toujours en musique à Bach. Je reviens toujours... Et pour moi, ça, c'est infiniment plus important que l'effet produit, que l'étrange qu'on peut avoir. C'est de retrouver tout le temps la rigueur et la solidité des anciens, pas du vieux, mais vraiment de ce qui est à la base. Il y avait des unités de lieu, de temps, d'action dans la tragédie classique. Et chaque fois que je donne des séminaires d'écriture, c'est là-dessus que j'insiste toujours, parce que l'imaginaire, tous les auteurs en ont. C'est l'imaginaire débridé qui est dans l'ignorance des lois et dans l'ignorance d'une psychologie humaine. C'est pas compliqué, mais si on ignore la psychologie, c'est là qu'on comprend plus le personnage. Et pour moi, c'est très important de toujours revenir à quelque chose qui fait partie de la logique, de la raison, du sens et de la loi. Et comme les lois sont embêtantes, comme on veut toujours transgresser les lois, c'est là que le plaisir commence. Mais il faut les connaître, ces lois-là. Et parce que c'est vrai qu'on est tous portés à dire « oui, c'était dans l'air du temps ». Les années 80, en fait, ce qui était dans l'air du temps, c'est qu'on s'apercevait que tout avait été dit. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça la postmodernité. Tout a été dit. Là, qu'est-ce qu'il fallait faire si on voulait créer? On ne pouvait que répéter Duras, on ne pouvait que répéter ce qui nous avait marqué en temps, soit visuellement, soit moi, quand j'ai commencé à faire de la peinture, je faisais comme mon grand-père, je faisais des reproductions. La matière créatrice au 20e siècle, c'est quelque chose, on est chanceux d'être là-dedans, mais encore faut-il le comprendre. Il fallait comprendre que, tout ayant été dit, on ne pouvait plus réécrire les rêveries du promeneur solitaire. Ça avait été dit. Alors, quand on avait des spleens, des grands moments et qu'on voulait créer là-dessus, c'était soit copié. Et puis, d'ailleurs, le passage d'Indiana, ça parlait de beaucoup de ça. C'était comment on va voler à l'autre ce qu'il a fait. Mais il faut savoir à qui on vole. Faut savoir que si je vole à Racine, je risque d'y voler des bonnes colonnes.
Alors, si on revient justement aux bases, et si on revient à Shakespeare, hein, puisque la rencontre, enfin, elle s'achève, c'est-à-dire pour ce qui est de nous, mais pas encore pour ce qui est des questions qui vont suivre. Shakespeare, donc, que vous avez beaucoup fréquenté, traduit abondamment, et que Normand Chauré... ça va mal, que Denis Marlowe a fréquenté grâce à vous. Othello, la tragédie d'Othello, c'était votre premier Shakespeare, donc dans la traduction de Normand Chorette. Alors, ce contact alors, avec un auteur très peu vivant, effectivement, qu'est-ce que ça vous a ouvert comme possibilité et quel projet futur éventuellement, est-ce que...
Oui, on est en train de travailler sur un livre pour le futur. Alors Normand commence une traduction, en fait il a, je pense, déjà traduit toute la pièce, le folio
le quarto.
Alors donc je suis pas très au courant de ce qui vient de se faire, mais voilà, c'est un projet. Et puis mon incursion dans le monde de Shakespeare et c'est certain qu'avec Normand, je me sentais très bien accompagné et j'avais vraiment besoin de savoir que le texte allait être retraduit, qu'on allait travailler sur une nouvelle base de traduction. Et que pour moi, ça a été vraiment comme un plaisir d'enfance de me plonger là-dedans. Parce que là, il y a une immense culture de la représentation théâtrale d'Othello qui est très difficile, même si vous ne voulez pas en faire... référence, vous avez vu des choses, inévitablement. Vous avez vu des œuvres de la télévision qui sont inspirées de tel ou de telle pièce ou de telle. Alors, donc, c'est très difficile d'éviter. Alors, moi, j'ai été très bien accompagné pour ça, mais mon plaisir, ça a été de dire je réunis une troupe d'acteurs et des concepteurs et pendant deux mois et demi, ça a été ça le temps du processus, on va monter Shakespeare, on va monter Othello, parce qu'il faut aussi des acteurs avec qui on a envie de travailler. On monte pas Shakespeare comme ça parce qu'on pense avoir une idée géniale. C'est là aussi un grand chemin à faire, tout un territoire à explorer. C'est passionnant parce que Normand connaît vraiment toutes les ficelles de cette dramaturgie, et c'est comment elles se parlent entre elles d'une pièce à l'autre, comment il en connaît les origines latines, sinon grecques ou du théâtre jacobin, donc ça devient très passionnant, mais en même temps pour moi ça a été plutôt une recherche sur le plateau que j'ai entreprise, très particulière. Une recherche avec des acteurs que, pour la plupart, je ne connaissais pas. Et j'avais un petit noyau dur, là, avec, bien entendu, avec Christiane, avec Pierre Lebeau. Mais pour le reste, c'était vraiment de la nouveauté. Et je me suis senti très heureux dans ça. Mais je ne voulais pas monter Shakespeare dans la tradition de Stratford ou anglo-saxonne. Ça ne m'intéresse pas parce que je ne la connais pas. J'avais pas envie de la connaître, j'avais envie de prendre ça comme un matériau vivant, un matériau écrit par... Alors le fait que ce soit Normand qui l'écrive, donc ça pour moi, ça, déjà il y avait une sorte d'actualisation de la pièce. Et j'ai souvent eu ce sentiment, à chaque fois que j'assistais à Shakespeare, que c'était très simple, mais qu'on n'en comprenait rien, souvent. Que beaucoup de choses ne passaient pas la rampe. Ça a toujours été, moi, mon impression comme spectateur, et je m'étais donné comme mandat, comme défi, d'arriver à une clarté, à une sorte de limpidité dans les relations entre les personnages, les motifs. J'avais envie de travailler là-dessus, donc de donner une sorte de lecture comme ça, essentialiste de l'œuvre, sans tomber dans la décoration ou dans l'effet grandiloquent, quoi, qu'on attribue souvent à Shakespeare sur le plateau. Donc j'ai fait tout le contraire de ce qu'on fait de l'OTNM. Donc j'ai fait appel à des créateurs qui ont fait, dès que je sentais que ça faisait théâtre, ça faisait TNM, je disais à proscrire, mettez ça, enlevez ça, et je voulais quelque chose de plus direct, de plus qui... donc on a même, j'ai demandé des choses très difficiles aux concepteurs de costumes, je voulais aucun costume de théâtre, donc on est allé dans des fringues, trouver des choses, on n'est pas allé chez le costumier... Bon, il y a des gens qui ont dit que j'ai un peu travaillé sur des panneaux à la Brecht, avec les panneaux gris, et puis... Mais c'était pour moi juste des façons de moduler l'espace, de donner de nouvelles configurations, de donner en fait, de créer des tensions, je dirais, géométriques dans l'espace. Hein, et ça, c'est important. Mais de raconter une histoire. Et puis, si je pense que je continue d'aborder Shakespeare avec Normand, ça va être comme ça aussi, même pour Le Roi Lear. En évitant évidemment d'en réduire la portée. C'est plutôt. Je vois pas d'autre mot qu'essentialiste. Je vois une sorte de. Hein, de et puis parfois il y a des scènes impossibles. Alors donc là, c'est là que la vidéo est devenue très, très importante, où l'utilisation que j'en ai faite, par exemple, de travailler sur la projection même de scène entière qu'on voyait sur le panneau. Et je trouvais ça plus efficace à la lecture que d'essayer de la jouer, ou ce qui souvent tombe dans le ridicule. Pour moi, c'était mes solutions. Hein, c'est. Mes solutions poétiques aussi, parce que ce sont des solutions poétiques.
Bien, merci beaucoup. Je vais en fait lancer la période de questions avec une question tout à fait hypothétique sur des futurs projets, ou enfin c'est pas tout à fait des projets communs, mais j'aimerais savoir, alors là vous avez monté des pièces, créé des pièces avec Normand Chorette, mais j'aimerais savoir s'il y a une pièce de Normand Chorette que vous rêvez ou que vous auriez très envie de monter, une pièce qui existe déjà.
Il y en a
déjà.
Plus qu'une. Ouais. Il y en a au moins deux. Je dirais, il y a le fragment de Lettres d'adieu, qui pour moi est une des vraiment des grandes pièces de Normand, que j'ai vu jouer, que j'ai vu en représentation, qui m'a. Et j'étais encore dans le désir après l'avoir vu de la monter. Je me disais, mais un jour je le ferai. Il y a aussi Tom Provincetown. J'ai eu l'occasion de travailler avec un groupe d'étudiants à la Haute École de Suisse Romande de Lausanne pendant 3 mois, 2 mois et demi, sur l'œuvre complète de Normand Chorette. Et ça a été vraiment formidable parce qu'on a tout lu, les pièces de Normand. Et on est passé à travers donc c'est tout c'est un maelstrom de mots, mais j'ai pu voir comment tout ça fonctionnait et on a monté ensemble Provincetown Playhouse, Les Reines, et ça a été vraiment magnifique. Et puis Provincetown, pour moi, c'est une des pièces les plus mystérieuses que tu as écrites et qui m'a beaucoup touché.
Alors, et vous, Normand Chorette, est-ce qu'il y a une ou deux de vos pièces que vous rêvez de voir monter par Denis Marlowe?
Oui, puis c'est pas les mêmes.
Ah, c'est intéressant.
Moi, j'ai écrit des pièces, des animaux étranges dans mon corpus qui s'appelle le Stabat Mater. Et je me suis cassé la gueule avec ça. Et aujourd'hui, je suis très content que ça soit arrivé parce que les gens ont été très obéissants à la structure du texte qui est très recto-tonneau. Et je pense que c'est un texte qu'il faut monter avec un ciseau. Et j'ai presque hâte d'être mort pour que Denis puisse être le pillard de ce texte-là et qu'il puisse vraiment retrouver l'humour, parce qu'il y a aussi un humour étrange à travers toutes ces mères qui sont folles de douleur d'aller chercher leur fille à la morgue. Il y a quelque chose... Et très curieusement, la première version, le Stabat Mater 1, a été a été reçu, je ne dis pas ça, ça m'enlève rien, ça me donne rien de le dire, là, mais a vraiment eu un très bel écho à Paris. Donc c'est peut-être mes pièces les plus françaises, qui ont été écrites d'ailleurs à Paris. Et bon, l'erreur, c'est que je ne les ai pas vraiment adaptées, et quand le TNM a voulu les monter avec cette énorme machine, ils sont allés chercher une pléiade de comédiennes connues, mais qui n'étaient pas nécessairement reliés autour d'un projet commun, mais c'était plus comme une sorte de procession. Il y avait quelque chose qui passait pas. Et pour moi, je suis content aujourd'hui que ça se soit passé comme ça, parce que pour moi, ça demeure à être revisité, ces textes-là. Et je pense que j'en ai jamais parlé à Denis, mais je sais que ça existe. C'est une mosaïque, c'est quelque chose de très hiératique, c'est très scolastique même. C'est quelque chose d'aride, d'austère. Il peut se dégager beaucoup de spiritualité de ces textes-là. Et c'est une dimension de moi qui est plus difficile à faire passer au théâtre dans les conditions de divertissement, de ce qu'on attend d'une représentation théâtrale, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de place pour la spiritualité. Et c'est sûr que ça fait peur, mais il y a là aussi, ça s'interdit pas l'humour, ça interdit pas l'étrangeté dont on parlait tout à l'heure. Et ça, je sais qu'un jour, ça va être fait. Je le sais. Probablement par Denis, mais je présume pas, là, j'annonce rien, mais je sens que ce serait pas complet pour moi si ça restait dans cet état-là.
Très bien. Alors, l'idée est lancée, et maintenant, donc, l'invitation est lancée au public. S'il y en a parmi vous qui ont envie de poser des questions ou de faire un commentaire pour l'un ou l'autre ou les deux de nos invités, je vous demanderai donc de ne pas hésiter, de ne pas être gêné, puis de vous présenter au micro qui est là au centre et qui n'attend que vous.
Je pense que nous vivons une expérience extraordinaire ce soir, parce que d'assister à ces deux monologues, qui en même temps sont une sorte de dialogue pour nous entre deux créateurs, parce que la mise en scène est une autre forme de création que l'écriture. Et surtout chez Denis Marlowe, la mise en scène est une création. On l'entendait le dire tout à l'heure, et quand on a vu le théâtre de Marlowe, on sait bien comment il y aurait toute une création. Mais je vous entendais tous les deux parler, l'un, Normand, de... des coquetteries que vous n'aimez pas, et Denis, de la chair qu'il faut enlever. Ça revient un peu au même, semble-t-il. La chair a sa coquetterie. Mais ce que je me demande en vous écoutant, c'est que par ailleurs, est-ce que l'humour auquel vous tenez tous les deux, ce n'est pas au théâtre de la coquetterie et de la chair? Et est-ce que ça ne nous distrait pas parfois de ce que vous voulez nous dire, Normand ou Denis? Et est-ce qu'il n'y a pas un piège dans l'humour, finalement? Un piège auquel le spectateur, d'ailleurs, adhère, parce qu'on on se plaît à certains moments. C'est très reposant, l'humour. Et ça nous permet d'échapper peut-être à... d'échapper l'os, si on peut dire.
Moi, je pourrais dire là-dessus que le mot « humour », on l'utilise à défaut d'un meilleur terme. Parce que l'humour, bien sûr, dans notre contemporanéité au Québec, j'écoutais d'ailleurs tout récemment, je ne sais plus à quel... si c'était à la télévision ou à une... il y a une conférence, je pense, sur l'humour. Le colloque. Qui nous met à l'avant-plan mondial de l'humour et tout ça. C'est pas de cet humour-là que je parle. Je dirais, pour être précis, ce qui nous fait rire. Ce qui fait rire l'être humain, c'est pas nécessairement de l'humour. C'est la reconnaissance de soi, les travers de soi, qui viennent nous chercher là où on s'y attend pas. S'il y a un élément de surprise. Et Denis est beaucoup plus proche de ça quand il dit « quand c'est prévisible ». L'humour, pour moi, c'est prévisible. Si je vais voir un spectacle de... je voudrais en nommer un, là, puis il y a des... Si je vais voir un spectacle d'humour à la Place des Arts, je choisis mon humoriste, je m'installe et je sais que je vais rire, mais ce ne sera pas du même ordre que si je vais voir une pièce de Beckett montée par Denis Marlowe, et que tout à coup, Estragon me fait rire. Et je pense que, puis Denis va être d'accord avec moi, je pense que c'est cet humour-là qu'on parle. C'est pas vouloir faire rire à tout prix. Je reviens sur le Stabat Mater, il n'y en a pas d'humour dans le Stabat Mater. Mais il y a des réactions humaines qui sont tellement disproportionnées par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'une douleur maternelle qui voit son enfant mourir, ou de... il y a quatre mères dans le... Bon, je travaille beaucoup les mères. Dans tous mes textes, la présence de la mère est omniprésente. Et bon, je pense que je suis quelqu'un de très resté marqué par l'amour maternel que j'ai reçu, aussi le monstre maternel, je dirais. C'est une matière inépuisable pour moi. Et ma mère était une personne très drôle, mais une personne très excessive. Et cette famille, et c'est ça, moi, qui va aller alimenter, non pas le rire pour le rire, mais ça peut même donner un éclairage sur la douleur. Ça peut relativiser les choses. Et vous savez que moi, j'écoute beaucoup la musique de Mahler. Et c'est une musique qui est remplie d'humour et qui ne parle que de la mort. Et quelque part, pour moi, c'est important dans une culture où on a tellement de propension au mélodrame, où on gâte tellement les choses avec des comportements de victimes et de larmoiement et de tout ça, d'essayer de retrouver une sorte de distance par rapport aux choses qui vont toutes nous arriver de toute façon, et d'essayer juste d'avoir une sorte de clarté, une sorte d'innocence, en même temps de simplicité devant les grands drames. Le média ne cesse de nous faire peur avec tout. Bon, quelqu'un va tuer quelqu'un dans un autobus et puis on en parle pendant 2 mois. Il y a une enquête du coroner, le monde se passionne pour ça. Moi, je me dis, si on peut juste, non pas mettre de l'humour là-dedans, mais de mettre notre regard là-dessus et de dire, oui, mais regardez, par ailleurs, il se passe d'autres choses. Par rapport, en dedans de moi-même, il se passe des drames tellement plus violents que ce qui peut se passer en Afghanistan, qui m'est retransmis tous les soirs aux nouvelles. C'est là-dessus, moi, que je m'interroge. Beaucoup plus que vouloir faire rire pour le rire.
Oui, ben moi, je pense au rire beckettien, évidemment. Oui. Beckett voulait faire rire. Il disait, oui, faire rire à travers ses personnages. Tchekhov aussi prétendait que Stanislavski ne comprenait rien à ses œuvres parce qu'il il en faisait des grands drames et que l'humour disparaissait. Bon, c'est une façon de dire que je pense que il y a un mot que tu viens de dire qui me frappe beaucoup, c'est le mot innocence. C'est celui d'arriver à donner sur scène ce sentiment que quelque chose échappe au personnage, échappe même à l'acteur, mais qui tout à coup surgit et nous surprend et nous amène dans un rire, nous amène au rire. Et c'est ce que moi j'entends par l'humour. Qui n'est pas quelque chose de calculé, qui n'est pas les faits, qui n'est pas une recherche des faits. Il y a des règles, il y a une école d'humour qui vous donne des trucs pour pouvoir faire rire et qui va analyser les codes, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est forcément autre chose. Mais c'est vrai qu'on est envahi par cette espèce de, sur le plateau, sur la scène, parce qu'il y a la télévision, il y a cette idée de divertir. Alors c'est pas là que se situe ma pratique, et puis je serais même très mal placé pour en parler, parce qu'il y a des gens comme Denise Filiatro qui, par exemple, connaît parfaitement la mécanique du rire sur un plateau et qui le fait merveilleusement, mais on ne fait pas le même travail, on ne fait pas le même boulot, tout à fait, c'est différent. Donc c'est en ce sens que je dis, je ne me sens pas autorisé à parler de ça, de ce point de vue, mais sur la question de l'innocence, de ce qui nous échappe finalement, c'est ce que moi-même j'aime bien au théâtre, c'est quand je sens que tout à coup quelque chose échappe à la direction, parce qu'il y en a une peut-être tellement précise, tellement, mais qui laisse tout à coup place à quelque chose qui va surgir et qui va s'en échapper.
Ça échappe et ça déstabilise. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'ose pas rire. Oui. On est comme c'est vraiment drôle.
On rit très peu dans nos pièces, très peu. Et là où on voudrait que ça rit pas. Les gens absorbent par l'intérieur cette.
Je voyais beaucoup le berceau, le rire.
Vous pouvez vous présenter au micro, s'il vous plaît, parce que c'est enregistré, alors c'est pour ça qu'on a besoin du micro.
Ok, alors ma question est pour M. Jaurette. En fait, j'étais intriguée quand vous avez parlé au niveau de l'écriture, de s'appuyer sur des piliers. Alors, je me demandais, dans l'écriture théâtrale, dans le fond, sur quelle loi vous vous appuyez? Parce que vous avez parlé de loi, dans le fond. Mm-hmm. J'étais intriguée de savoir un peu à quoi vous faisiez référence. C'était pas clair pour moi.
Mais au théâtre, on est chanceux parce qu'on les a déjà donnés. Hein? On sait qu'on écrit pour un plancher. On va avoir une scène. On va avoir un plafond. Je me souviens quand j'ai fait Les Reines au théâtre d'aujourd'hui, le bunker sur la rue Papineau, le plafond avait 9 pieds. La scène avait 14 pieds. Il y avait deux colonnes qui faisaient que le metteur en scène n'avait pas le choix de placer des personnages et du public pour que tout le monde puisse tout voir. Alors, les lois, elles étaient là. En fait, c'est ça le théâtre. Elles existent déjà. Elles sont préalables. Ça prend une histoire. Ça prend une histoire. Ma dernière pièce, qui est un long soliloque d'une femme qui s'endort et qui fait un rêve, c'est quand même l'histoire d'une personne qui est terrorisée à l'idée qu'un Jack l'éventreur va venir, pourrait frapper à sa porte et venir l'éventrer. Et une histoire, ça ne veut pas dire une saga qui va se dérouler sur des siècles. Juste ça, pour moi, c'est une histoire. Juste ça, il y a une tension. Hein. Pour moi, une histoire, c'est une tension. Je le dis jamais en public, mais il y a quand même un auteur américain qui a dit que pour faire un bon roman, mais je l'applique au théâtre, ça prend trois choses. A good story, good story, a good story. Et je me souviens toujours de ça quand je commence un projet d'écriture. Et après ça, tout me sera permis. Mais il faut que l'histoire soit bonne. Il faut qu'elle soit simple. Il faut que quand le spectateur s'assoit dans la salle, il soit déjà happé par quelque chose qui l'intéresse. Et ça, c'est très important. Ça s'appelle le respect du spectateur. Et ça demande beaucoup de générosité, je dirais, pour ne pas dire ça, je m'en fous. Ça, moi, j'ai quelque chose à dire qui se fout de ces conventions-là, etc. Le reste, c'est tout le temps tributaire de ça. C'est de me souvenir que si je fais dérailler mon personnage, si j'envoie la locomotive complètement en dehors de la traque, que le spectateur puisse avoir un repère quelque part, qu'il puisse se souvenir. Et là, je parle juste au niveau textuel. Puis c'est aussi, dans un deuxième temps, en même temps, je dirais, c'est aussi pour donner au metteur en scène une ligne directrice pour que lui puisse quand même créer sa mise en scène à partir de quelque chose qui soit assez solide. Si c'est juste des pistes jetées sur papier, qu'on ne sait pas. Et aussi la psychologie. Moi, je suis le chantre de la psychologie humaine. On dit que mon théâtre n'est pas psychologique. Je me porte en faux là-dessus. Mes personnages sont en béton psychologique. Lorsque la reine Élisabeth égare ses enfants, c'est d'une psychologie, d'un raffinement, Christiane va pouvoir le dire, c'est absolument pas gratuit, c'est une femme qui est tourmentée, elle vient d'accoucher, elle a des raisons humaines de faire tout ça. On n'y voit que du feu, mais moi je sais pourquoi un personnage dit telle chose, c'est rarement gratuit. C'est parce que ça procède tout le temps mais moi je me passionne pour la psychologie. Le tout est que ça n'a pas de l'air psychologique. Mais moi, je travaille beaucoup, beaucoup la psychologie de mes personnages.
Merci. Une autre question?
Si on étudie le théâtre un petit peu, on revient toujours avec les mots de Robert Lévesque qui avait dit à un moment donné, Charette n'a pas trouvé son metteur en scène. Donc, visiblement, là, il a trouvé la rencontre en est la preuve. La question est la suivante. Pour qui on écrit? Quand on a trouvé son metteur en scène, est-ce qu'on vient jusqu'à trouver à écrire justement pour Denis Marlowe jusqu'à un certain point? Et puis aussi, je pense entre autres, quand vous avez commencé Provincetown's Playhouse, vous faites plusieurs clins d'œil, même des grimaces au public et à la critique. Donc il y a toujours une interaction avec la critique, mais aussi avec le public. Donc on va mettre un coup de théâtre parce que le public aime le théâtre. Les coups de théâtre. Donc pour qui on écrit jusqu'à un certain point? Est-ce qu'on vient à écrire pour Denis Marlowe? Et à la limite, est-ce qu'on pour la mise en scène aussi, est-ce qu'on met en scène pour un public, est-ce qu'on met en scène pour des critiques? Il y a ce qui meurt en dernier, entre autres, je me souviens, il y avait une critique dans Le Devoir, on parlait juste, la dame disait que c'était une pièce qui est un peu trop, c'est un public dont on n'appartient pas, donc c'est un peu trop cérébral, c'est trop ça. Donc même si rendu au Devoir, on sait trop cérébral, donc qui s'adressent les pièces, dans le fond, de Normand Charette?
Ben, c'est loin d'être une question banale. C'est toute la question de l'œil lecteur. Hein? Parce qu'un écrivain a besoin, au départ, d'un lecteur. Toujours. Que ce soit l'enfant de 4 ans qui écrit, ou que ce soit l'ado, ou que ce soit l'écrivain mature qui soit dans sa tour d'ivoire ou qui soit vraiment engagé sur la place publique, l'acte d'écriture est impossible dans dans une forme autistique. Ça se peut pas. Il y a toujours quelqu'un qui lit au fur et à mesure qu'on écrit. Et c'est là, c'est toute la question de savoir c'est qui ce quelqu'un-là. Et je peux pas y répondre en 5 minutes parce qu'elle est extrêmement complexe. Beaucoup d'écrivains vont mourir et ne le savent pas pour qui ils écrivaient. Moi, je pose tout le temps la question à mes étudiants quand je fais des séminaires d'écriture. Il y a des groupes où la question ne peut pas se poser. Mais quand je vois qu'il y a une sensibilité à cette espèce d'exercice, ce qui revient souvent, c'est d'abord, c'est le silence pour qui j'écris. Oui, forcément, j'écris pour quelqu'un. C'est souvent un tabou. C'est souvent pour le regard impossible du père ou de la mère. Ou, bon. Ça fait partie de la psychanalyse de chacun. Bon, au premier degré, oui, si Denis me demande, quand il m'a demandé ce qui meurt en dernier, en fait, il m'avait montré un décor et tout ça, j'ai dit oui. C'est un adjuvant. C'est un adjuvant de savoir que c'est Denis qui va le monter, mais je peux pas écrire pour Denis. Moi, j'ai toujours dit, j'écris pour l'autre Normand qui est dans la salle. J'ai toujours dit ça. Parce que je me souviens d'une pianiste qui avait joué l'opus 109 de Beethoven, et j'ai eu cette fois-là, c'était dans un concours international, et c'est la seule fois de ma vie que j'ai eu l'impression que c'est pour moi que Beethoven avait écrit quelque chose. Et j'ai tellement pleuré. Et là, j'ai compris que c'est ça. Et Beethoven a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du réceptacle. Il est mort en disant « Celui qui va comprendre ma musique, il va comprendre quelque chose. » Et c'était sa hantise. C'était de parler à l'autre. Et c'était de parler à lui-même. Dans le fond, on écrit pour soi-même, mais il faut avoir la conscience du double. Moi, j'essaie de communiquer quelque chose que seulement quelqu'un qui va être comme moi va pouvoir comprendre entièrement. C'est une utopie. Mais c'est quand même ça que j'essaie tout le temps de retrouver. Je suis conscient que ça peut être abstrait, là, ce que je dis, mais je fais la réponse est en work in progress. Je me pose encore la question pourquoi on écrit. On a l'Internet aujourd'hui, on a accès à tout. Tout a été dit avant nous. Pourquoi on écrit? C'est une méchante question. D'abord, c'est comme tu l'as posé, c'est pour qui on écrit. C'est vraiment qui. Et ça, c'est toute la question de l'œil lecteur, et elle est loin d'être simple, cette question-là. Mais c'est sûr que oui, c'est un adjuvant d'écrire bon, pour Denis Marlowe, oui, mais ça ne dure qu'un temps. Ça dure le temps du rêve. Dès que je me mets à écrire, ça vient d'ici. Ça vient d'ici, puis il faut que ça se rende à quelqu'un. Mais quelque part, il est assis dans la salle. C'est quelqu'un qui est assis dans la salle. Et c'est surtout pas le critique. Mon Dieu, quelle erreur que... énormément d'auteurs se sont ramassés le bec à l'eau pour avoir tout misé sur le critique qui les encensait, puis qui se sont retrouvés à un moment donné, ils avaient coupé la tête. Il n'y avait plus de tête pour écrire, le critique il avait coupé la tête. Il avait fait comme Louis XIV, le monarque, hein? Il a tout mis sa cour, puis après ça, il les a tout. Moi, j'ai été avisé de ça très tôt. Il y a des gens qui m'ont prévenu. Puis c'est difficile d'écouter ces gens-là. Un jour, il va te démolir. Hein? Ce jour-là est arrivé, j'ai pas trouvé ça drôle, mais j'avais comme été prévenu. Tu sais, il faut pas mettre notre potentiel créateur dans celui qui va nous encenser. Que ce soit un critique, ou que ce soit un ami, ou que ce soit un papa, ou que ce soit... Si on fait ça, on écrit déjà pour les mauvaises raisons. C'est ce que je veux dire, oui.
Et Denis Marlowe, vous mettez en scène pour Normand Charette?
Non. Je ne mets pas en scène pour Normand. Je mets en scène pour toutes sortes de raisons. Je ne sais pas toujours pourquoi je le fais. Je le découvre parfois aussi en cours de processus, pour vous dire la vérité. Je le sais. Quand je monte un texte de Normand, des fois c'est très clair. Oui. Mais il y a des choses qui parfois me résistent et qui... et je vais travailler sur la résistance. Le dernier texte que j'ai fait de Normand, ce qui meurt en dernier, c'est un texte pour moi qui m'a un peu décontenancé, qui m'a mis en état de déséquilibre. Je ne savais pas trop sur quoi m'appuyer et j'ai eu la chance d'avoir Christiane, comme, puisque le texte lui était destiné, hein, comme il était dirigé vers Christiane. Et heureusement, parce que là, je me suis senti dans mon travail de metteur en scène aussi, fonctionnel et opérationnel parce qu'elle était là. J'avais besoin d'elle pour avancer dans le travail et je ne peux pas inventer une mise en scène sans les acteurs et sans la potentialité de jeu que recèle une interprète comme Christiane ou comme d'autres avec qui je travaille. Donc c'est là-dessus que je m'appuie beaucoup et je pense que Christiane a beaucoup éclairé justement mon approche du parce qu'elle était investie à un niveau que je ne l'étais pas. Hein. Donc c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un meilleur spectacle parce que vous êtes investi et parce que vous avez une idée géniale ou que vous vous sentez concerné par le propos. Je me suis pas senti du tout concerné par ce texte. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et j'ai compris que ça passe, mais je me suis pas senti concerné. En fait, je pense que je suis en train de changer un petit peu comme metteur en scène depuis quelque temps. Alors donc, ça, c'est peut-être plus une parole d'artiste, mais avant, je me mettais beaucoup à... Je me préparais, j'avais de la dramaturgie, j'avais des conseillers, j'avais tout un appareillage intellectuel autour de moi parce que j'étais peut-être un peu plus insécure et je me sentais dans le besoin de... Et depuis quelque temps, je suis plus capable de travailler avec ça. Je suis dans l'expérience du plateau. Et c'est ce qui m'intéresse maintenant. Depuis quelques années, ce n'est que ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, à partir d'un texte, et puis il y a des acteurs, et puis voyons qu'est-ce qui va se passer. Et là, je suis vraiment dans le travail sur l'humain, sur la dimension humaine, et comment ça fonctionne, un texte écrit par un être humain et qui doit être joué par un être humain et qui va s'adresser à des êtres humains. Alors, c'est ça qui m'intéresse essentiellement. Alors, c'est important pour moi de maintenant me donner un cadre où je me sens extrêmement... où j'ai du temps. J'ai du temps et j'ai une sorte de liberté d'exécution, d'avoir tous mes collègues avec moi et qui font des essais, qui travaillent, qui concourent à monter cette représentation, mais sans avoir une idée préconçue, en acceptant que tout soit remis en cause. C'est souvent comme ça que je travaille. Donc, c'est une expérience très directe et très concrète et qui n'est pas du tout liée à un projet intellectuel ou à un projet esthétique. Tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup travaillé différemment et que maintenant, je suis dans une autre dimension. Voilà.
Bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a une question urgente et courte ? Ce serait la dernière. Madame ?
C'est une question un peu à côté, peut-être. Je voulais élargir la question de Sylvain sur le public. Alors, vous avez parlé beaucoup, n'est-ce pas, de votre travail sur le théâtre anglais. Et vous avez parlé aussi de la réception en France, de la création en France de vos pièces. Alors, j'aimerais savoir où en est la traduction de vos pièces en anglais pour que je puisse les voir en Grande-Bretagne.
Pour que vous puissiez les voir
chez moi en Grande-Bretagne.
En Grande-Bretagne. Écoutez, je ne sais pas pour l'Angleterre, je sais que les Reines ont été jouées à Édimbourg. Il y a un divorce entre mon écriture et la réception anglo-saxonne en général, mais je crois qu'elle est... c'est drôle parce que cet été, j'ai eu à statuer là-dessus. Le Canada anglais s'est senti obligé de me monter. Et les gens l'ont fait avec une certaine routine, je dirais. J'ai jamais été comblé, sinon que par des projets qui étaient, que je me rappelle, d'un fragment d'une lettre d'adieu en anglais au au Prairie Theatre Exchange à Winnipeg. Une expérience inoubliable qui n'a duré qu'un soir. Il n'y a jamais eu d'écho là-dessus. Les plus grands succès que j'ai eus, c'est dans des fringe, des étudiants, des... Il faut que ça vienne de, vraiment de l'enthousiasme d'un, des jeunes et tout ça. Les structures institutionnelles ne comprennent pas ce que j'écris. Et je dis ça sans aucune amertume, c'est normal. Je pense que je ne suis pas là. Et Linda Gaborio a beaucoup, beaucoup travaillé.
T'es traduit par Linda?
Je suis traduit, dans toutes mes pièces sont traduites.
En italien, en anglais aussi?
En italien, il n'y a pas de problème. Dans les pays latins, il n'y a pas de problème. Mais en anglais... D'abord, les reines en anglais, c'est suspect. Hein? C'est suspect. Déjà, le titre pose un problème. Non, si j'ai pas, y a pas eu de rencontre jusqu'à présent, ni aux États-Unis. Il y a eu des reines à Dallas qui ont été un très, très gros succès. C'est le seul. Il n'y a pas eu, il n'y a pas de feuille de route remarquable sur les territoires anglophones. Et c'est comme ça, c'est comme ça.
Bien, alors...
Mais c'est bien que je puisse le dire parce que c'est effectivement c'est un statement.
Alors bon, on va clore ici la rencontre en vous souhaitant précisément des belles rencontres en anglais, d'être monté en anglais et de continuer votre collaboration fructueuse. On a bien hâte de voir ce livre. Et merci au public d'avoir été là. Merci à Normand Charette et à Denis Marlot et bonne fin de soirée à tous.
Merci.